Juliette Rangeval.
Five weeks ago, I spoke to you from these steps and said that this government was not going to hang around and that we would not wait until Brexit Day, October the 31st, to deliver on the priorities of the British people.
Bonjour. Les brouillards du Brexit ne se sont pas dissipés pendant l'été. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a eu beau se concentrer sur les dossiers intérieurs lundi soir devant le 10 Downing Street. C'est la foule qui scande « Stop the coup » pour dénoncer la suspension du Parlement qu'on entend le mieux. Emmanuel Avril est professeur de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle, co-auteur avec Pauline Schnapper « D'où va le Royaume-Uni ?»« Le Brexit et après » chez Odile Jacob, elle est l'invitée d'Accent d'Europe aujourd'hui. Elle revient sur les racines profondes de la crise institutionnelle qui éclabousse désormais même la reine.
La crise constitutionnelle à laquelle on assiste maintenant, elle résulte en grande partie de ce référendum qui a été mal conçu.
Est-ce que, du côté britannique, les élus réfléchissent à une résolution de cette crise, c'est-à-dire une réflexion plus longue sur changer le système politique ou le système électoral?
Certains le font, mais disons qu'on n'entend pas beaucoup de propositions allant dans ce sens. Et c'est vrai que là, il y a un certain nombre de perspectives vraiment inquiétantes pour l'avenir du Royaume-Uni. Et puis, on voit comment l'institution de la monarchie se trouve mouillée et donc risque aussi de subir un contre-coup suite aux derniers développements.
Alors justement, quelles seraient les conséquences pour la reine?
Ce qui sous-tend la légitimité de la reine, c'est sa cote de popularité. Donc c'est le fait que ça soit une institution qui a réussi à redorer son blason, en partie grâce à une succession d'événements, des mariages, des naissances, etc. Il y a eu des moments dans la vie de la monarchie qui ont été beaucoup plus difficiles. Donc, se retrouver en position de laisser passer cette suspension du Parlement a provoqué des réactions assez marquées de gens qui font campagne pour une république.
Alors là, on est encore dans une grande hypothèse, parce que la reine est encore...
Bien sûr.
Le système monarchique est encore très populaire. Les opposants qui demandent une république sont très minoritaires.
Ils sont très minoritaires, mais le fait que la reine se soit trouvée poings et pieds liés, que son rôle de conseil et d'influence, qui n'est pas explicite, mais qui existe néanmoins, n'ait absolument pas pu empêcher Boris Johnson de faire ce qu'il a fait, ça remet en question la légitimité de cette institution.
Dans cette très ancienne démocratie parlementaire, l'obsession des partisans d'une sortie de l'UE, c'est que le Royaume-Uni reprenne le contrôle de sa destinée. C'est sur cette idée forte qu'ils ont fait campagne et qu'ils s'opposent à l'Union européenne depuis des années. Paradoxal, quand on voit que la première grande décision de Boris Johnson sur le dossier du Brexit, c'est de suspendre le Parlement britannique et donc de mettre un frein au pouvoir des parlementaires.
Il n'a mis les pieds dans la Chambre des communes qu'un seul jour depuis sa nomination au poste de Premier ministre. Ce que Boris Johnson vise, c'est d'éviter de devoir soumettre le gouvernement aux questions du Parlement, ce qui est quand même quelque chose de complètement inédit dans le système politique britannique. Et ensuite, on a tout de suite pensé que évidemment il y avait un calcul derrière. Il était en mode campagne électorale déjà, ça se sentait avec un certain nombre d'annonces qui avaient été faites de financement en direction de système éducatif ou du système national de santé.
Emmanuel Avril répondait aux questions de Catherine Roland.
Order!
Ce mardi, c'est donc la rentrée du Parlement au Royaume-Uni, une institution cruciale et très soucieuse de son indépendance, Marie Billon.
Il ne se laisse pas faire. Cela fait des siècles que ça dure. Au fil de l'histoire britannique, les députés ont toujours trouvé un moyen de prouver leur indépendance. Ils en font même un spectacle régulier. On entend ici la chambre basse claquer la porte au nez du représentant de la reine, appelé Black Rod, l'huissier du bâton noir en français. Il tape ensuite lourdement à la porte par trois fois avec son bâton de cérémonie. Black Rod vient convoquer les députés au nom de la souveraine. Et c'est ainsi qu'à chaque discours du trône, quand le monarque présente le nouveau programme de son gouvernement, comme Boris Johnson veut le faire le 14 octobre prochain, que les députés rappellent à la couronne qu'ils ne sont pas à sa botte. Beaucoup de cérémonies, des débats houleux, et quand ça ne suffit pas, les parlementaires n'hésitent pas à s'attaquer aux symboles.
Colleagues have registered their view on the matter.
I think David debate to be resumed what day.
En décembre dernier, un député s'empare de la masse d'armes, une sorte de grand sceptre en or posé au milieu de la Chambre des communes et représentant le roi ou la reine. Lloyd Russell Moyle est rapidement arrêté par un commis de la Chambre qui remet la masse d'armes à sa place. Après son expulsion, l'élu explique qu'il a voulu, avec ce geste, exprimer son mécontentement face au Parlement qui ne se rebelle pas assez contre le gouvernement, en l'occurrence à l'époque celui de Theresa May à propos du Brexit. Le Parlement avait pourtant déjà refusé une fois le plan de la première ministre, il le rejettera trois fois en tout avant de la pousser à la démission en mai. Et pour tenter d'affirmer un peu plus leur pouvoir en ces temps de Brexit, les représentants du peuple multiplient les précédents, réussissant par exemple à prendre le contrôle de l'agenda parlementaire, normalement une prérogative de l'exécutif.
Order! Order!
The eyes to the right, 329. The nose to the left, 302.
Nous sommes en mars et les députés britanniques veulent organiser une série de votes indicatifs sur le Brexit. Puisque l'accord de Theresa May ne les satisfait pas, les élus espèrent trouver une proposition alternative entre eux pour ensuite demander à l'exécutif de la négocier avec Bruxelles. Le problème, c'est qu'aucune des sept solutions pour sortir de l'impasse ne remporte de majorité. La huitième, qui propose de sortir de l'Union européenne sans accord, est-elle clairement rejetée. Les députés montrent qu'ils sont contre un no deal.
Brackets no deal. The ayes were 160, the noes were 400. So the noes have it.
Un message clair à 240 voix de majorité, mais qui, d'abord, ne fait pas avancer les choses et ensuite est purement symbolique. Il n'oblige légalement le gouvernement à rien. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans la même situation. Les députés cherchent encore un moyen d'empêcher une sortie sans accord.
Les incertitudes du Brexit ne valent rien à l'économie, signe d'essoufflement, livre sterling au plus bas et des inquiétudes qui se concentrent aujourd'hui sur deux secteurs, l'alimentation et la santé. En Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni et en République d'Irlande, on s'inquiète plus que partout ailleurs car le retour d'une frontière physique pourrait bouleverser une situation que les accords de paix du Vendredi Saint ont pacifié il y a 20 ans déjà. Dans le domaine de la santé, notamment, la coopération entre le nord et le sud de l'île est une réalité et une nécessité. À Belfast, Frédéric Lebel s'est rendu à l'inauguration au Royal Belfast Hospital d'une nouvelle unité de cardiologie pédiatrique pour tous les enfants irlandais.
North and South, working to deliver what really matters on a small island.
Il n'y a plus de frontières entre le nord et le sud de l'Irlande pour tous les patients et donc aussi pour les enfants qui ont des problèmes cardiaques. Jennifer est venue avec son fils de 11 ans. Kylan a déjà subi deux opérations à cœur ouvert. Pouvoir se soigner à Belfast plutôt qu'à Dublin ou au Royaume-Uni, c'est un soulagement. Kylan s'en sort très bien malgré ses sérieux problèmes cardiaques. Ça va vraiment bien et on vient souvent ici pour faire des contrôles, pour s'assurer que tout est stable. On a dû aller à Dublin une fois seulement. On craignait de devoir s'y rendre beaucoup plus souvent. Mais maintenant qu'il y a cette nouvelle unité hospitalière bien équipée, on se dit qu'il va pouvoir être traité à Belfast. Et comme on habite à l'ouest, c'est vraiment rassurant. Il y a encore quelques années, les jeunes patients et leurs parents devaient prendre l'avion pour aller se faire opérer à Londres ou Birmingham. Complications médicales, stress et coûts financiers. Valérie, mère d'une petite fille Amy en attente de greffe cardiaque, connaît tout cela.
Si vous voyagez, vous devez laisser la famille, vous ne vous déplacez qu'à deux. Bien sûr, théoriquement, il pourrait venir, mais financièrement, ça ne serait pas possible. Notre fils de 14 ans ne peut pas venir non plus, ce n'est pas possible. Après une opération chirurgicale, il y a trop de travail, vous ne pouvez pas vous occuper de quelqu'un d'autre, ça prend tout votre temps.
Grâce aux accords de paix, grâce à l'Europe, la santé n'a donc pas de frontières, une évidence d'un simple point de vue économique. Avec à peine 2 millions d'habitants, l'Irlande du Nord ne pourrait à elle seule financer un service hospitalier de qualité. Dans 2 ou 3 ans, plus aucun enfant ne devrait avoir à prendre l'avion pour se faire opérer en Angleterre. Sharon Morrow travaille depuis 3 ans pour coordonner cette offre de soins et pour l'améliorer aussi. On opère désormais moins
à cœur ouvert grâce à un nouveau laboratoire de cathéter qui a ouvert à Dublin.
Maintenant, on peut intervenir sur les jeunes malades via les cathéters, alors qu'auparavant, on aurait dû les opérer. Et c'est fantastique, parce qu'ils évitent ainsi une opération cardiaque très invasive avec l'ouverture du sternum. Ce qui veut dire que les enfants restent hospitalisés bien moins longtemps. Ils ont moins de douleurs et n'ont plus cette grande cicatrice sur la poitrine.
Tout ce bel édifice risque-t-il de voler en éclats en cas de Brexit sans accord? Il faudra alors renégocier des accords bilatéraux pour les hôpitaux. Mais que se passera-t-il pour la médecine de ville? Direction l'Association médicale britannique à Belfast.
Hello, it's Frédéric Lebel, the French journalist.
Right.
Dans cette association qui regroupe les médecins généralistes, on est particulièrement inquiet du retour de la frontière. Aujourd'hui, toutes les urgences médicales sont assurées indifféremment pour les patients, qu'ils vivent au nord ou au sud. Le docteur Frances O'Hagan est médecin généraliste à Fermanagh, au nord, près de la frontière justement. Elle craint le pire pour ses consultations si on rétablit des checkpoints.
Quand vous conduisez le long de la frontière, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a une frontière. Et dans les coins où le tracé est plus tortueux, vous pouvez la franchir trois fois simplement pour rendre visite à un patient. J'ai travaillé à Belfast au plus fort de ce qu'on a appelé les troubles, et je me rappelle bien que traverser la frontière, c'était quelque chose. Il fallait passer les checkpoints de l'armée et on pouvait faire la queue pendant des heures. Mais tout ça, c'est derrière nous et on ne veut plus revoir ça.
Those days are gone. We don't want them back.
Ici comme ailleurs, Frances est confrontée au problème des déserts médicaux.
On n'a pas assez de docteurs, surtout de généralistes. On essaie avec beaucoup de difficultés de garder les cabinets médicaux ouverts, mais c'est très difficile dans les coins les plus reculés près de la frontière. Dans le comté de Fermanagh, il y avait 17 cabinets médicaux il y a 3 ans, il n'en reste plus que 5.
Un problème qui risque de s'aggraver. Aujourd'hui, les hôpitaux et les centres médicaux irlandais recrutent aussi des médecins britanniques. Une fluidité qui n'aura plus cours en cas de no deal.
En Turquie, après ses récents revers aux élections municipales, le président Recep Tayyip Erdogan durcit le ton contre l'opposition. Témoin, le limogeage le mois dernier des maires de 3 grandes villes du sud-est du pays. Longtemps divisé, l'opposition cherche désormais son salut dans l'Union à Istanbul, à Nandlower.
Soutien au terrorisme, propagande terroriste, appartenance à une organisation terroriste. En Turquie, ces charges sont devenues banales. Elles servent à punir, voire à emprisonner des milliers d'opposants. Et parfois, lorsqu'il s'agit d'élus, à les priver de leur mandat. C'est ce qui est arrivé le 19 août à 3 maires du parti pro-kurde, le HDP, dans les grandes villes de Van, Diyarbakir et Mardin. Le HDP s'y était imposé en mars à une large majorité, mais le ministère de l'Intérieur, invoquant des enquêtes judiciaires contre les maires, les a remplacés par des fonctionnaires. Il y a quelques jours, les édiles déchus de Diyarbakir et Mardin, Seljuk Mızraklı et Ahmet Türk, dénonçaient ces pratiques lors d'une conférence de presse.
Après nous avoir démis de nos fonctions, la première chose que les autorités de tutelle ont faite a été de décréter que le conseil municipal ne se réunirait plus. Cela va très au-delà de leurs compétences.
J'ajouterai que non seulement les conseils municipaux ont été dissous, mais des policiers montent la garde devant les bâtiments de nos mairies avec des listes de noms. Ils refusent l'entrée du bâtiment aux élus municipaux, mais aussi aux bureaucrates qui travaillaient avec nous.
Depuis l'entrée en vigueur l'an dernier d'un régime présidentiel fort, taillé sur mesure par et pour l'actuel dirigeant Recep Tayyip Erdogan, aucune institution n'échappe plus au contrôle du chef de l'État. Ce dernier est contraint par son alliance avec le parti ultranationaliste, n'a aucune raison de lâcher du lest ou d'assouplir sa rhétorique, qui vise au moins autant à diviser la société qu'à intimider ses opposants. Raison pour laquelle, selon Ahmet Türk, la période à venir risque d'être encore plus dure.
Nous pensons que le gouvernement ne va pas se contenter de limoger 3 maires. D'autres pourraient suivre bientôt. Et vous avez entendu Erdogan ces derniers jours. Il a aussi menacé de lever l'immunité des parlementaires, ce qui pourrait signifier d'autres emprisonnements de députés.
Incarcéré auprès des députés et des maires pro-kurdes, la pratique n'est pas nouvelle. Depuis le coup d'État manqué de juillet 2016, 9 parlementaires du HDP ont été jetés en prison, dont ses deux dirigeants, et 94 maires élus sous la précédente mandature ont été démis de leurs fonctions. Longtemps, le HDP n'a reçu aucun soutien des autres partis d'opposition. Il est temps que cela change, plaide Ahmet Türk, figure majeure depuis un demi-siècle du mouvement politique kurde.
Nous traversons une période sensible et très importante pendant laquelle l'opposition doit se rassembler pour faire avancer la cause de la démocratie. Si l'État se comportait de manière intelligente, rien de tout cela ne se produirait. Au contraire, ils feraient tout pour tenter de rallier à leur cause les Kurdes et le reste de l'opposition. Malheureusement, nous sommes face à un pouvoir guidé par l'émotion et la colère, donc nous ne savons pas jusqu'où il peut aller.
İbrahim Kaboğlu est l'un des professeurs de droit constitutionnel les plus respectés de Turquie. L'an dernier, il est entré au Parlement comme député du principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate. Lui aussi est témoin au quotidien des dérives du nouveau régime, mais il veut rester optimiste.
Nous sommes en monocratie, c'est-à-dire dans un régime qu'une seule personne domine et dirige. Pourtant, j'ai d'autant moins perdu espoir qu'on voit bien que ces derniers mois, ce régime est de plus en plus remis en cause. Et cela va continuer ainsi.
İbrahim Kaboğlu est du même avis que les maires pro-kurdes démis de leurs fonctions. Selon lui, la seule issue envisageable face au durcissement du régime est l'union la plus large possible des anti-Erdogan. Signe qu'une telle équation est possible, le CHP social-démocrate a dénoncé sans équivoque le renvoi des trois maires, alors qu'il était resté en retrait ces dernières années face à des pratiques similaires, par crainte de s'afficher aux côtés de l'opposition kurde. İbrahim Kaboğlu.
Notre victoire municipale à Istanbul le 23 juin, après l'annulation d'une première victoire en mars, a apporté un changement majeur. Elle a montré que l'alternance politique restait possible, malgré le pessimisme qui s'était développé à ce sujet. Toute notre lutte se concentre désormais sur l'union de ceux qui croient en la démocratie et l'état de droit, pour créer ce que j'appelle un front démocratique.
Le week-end dernier, le nouveau maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, membre du CHP, était d'ailleurs à Diyarbakır, où il a rencontré le maire démis de ses fonctions. Ses mots de soutien ont été clairs. Quand ceux qui arrivent par une élection ne partent pas par une élection, c'est qu'il n'y a pas de démocratie et pas d'état de droit.
On part dans la région de Kalouga, c'est au sud-ouest de Moscou, visiter le parc de Nicolas Lenivets. C'est un parc unique en son genre en Russie, un endroit qui est fréquenté par tous les moscovites branchés en manque de nature, en particulier grâce à son festival annuel de Land Art, dont la programmation mêle musique et art contemporain. Étienne Bouche.
L'œuvre emblématique de Nicolas Lenivets peut aussi bien évoquer un mammouth qu'un instrument à vent. Réalisé par Nikolaï Poliski, le maître des lieux, cette imposante figure de bois s'appelle Beaubourg. Ce sont en fait les tubes du centre Pompidou de Paris qui ont inspiré l'artiste. Au départ, Nikolaï Poliski et ses amis cherchaient simplement une datcha, une maison de campagne qu'ils pourraient transformer en atelier. Dans les années 90, il tombe sous le charme de ce petit village à quelques heures de Moscou. Autour, le territoire est vierge et immense, la forêt est abondante, un lieu tout trouvé pour introduire le Land Art en Russie. S'inspirer de la nature, utiliser ses ressources et faire surgir dans ce cadre sauvage sculptures et installations. À mesure que des œuvres apparaissent, ce village, on ne peut plus ordinaire, acquiert la notoriété d'un lieu d'art reconnu. Des artistes réputés y laissent leur empreinte, c'est le cas par exemple de l'architecte Alexandre Brodsky ou de la plasticienne Irina Korina. Depuis quelques années, Nicolas Lenivets est devenu un lieu de pèlerinage estival de la jeunesse moscovite. Créé en 2006, son festival mêlant art et musique est prisé des citadins à la recherche d'atmosphères bucoliques. L'occasion de découvrir une installation sonore au détour d'un sentier, d'assister à un opéra contemporain au crépuscule ou tout simplement de griller des brochettes et refaire le monde dans l'ivresse des nuits d'été.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez en podcast sur Internet et sur les réseaux sociaux. À demain.